Capital sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec Christina Fauta
et Elisabeth Couget. Et nous prenons l'avion aujourd'hui, 7 heures de vol, vers la côte est des États-Unis en direction de New York, une ville mythique et fascinante.
Alors New York n'est pas la capitale des États-Unis, c'est Washington.
Alors Washington, la capitale administrative, New York a quand même été très brièvement la capitale entre 1785 et 1790. Et c'est à New York que le premier président, George Washington, prête serment sur la Bible le 30 avril 1789.
Date connue, n'est-ce pas ?
Oui, pour la France, c'est autre chose, mais bon. Aujourd'hui, capitale économique et culturelle, New York est une ville phare, cosmopolite et passionnante. Elle est 7 fois plus grande que Paris et compte 8,5 millions d'habitants.
Alors au XVIe siècle, New York n'était encore qu'un village au bord de l'Atlantique.
Où vivent des Indiens, les Algonquins, sur l'île de Manaata, qui va d'ailleurs devenir Manhattan. Un Florentin, Giovanni Verrazzano, la découvre le premier et décrit un paysage enchanteur couvert de collines boisées où débouche un très grand fleuve.
Puis, en 1609, l'Anglais Henry Hudson remonte le fleuve.
Ce fleuve qui va porter son nom, l'Hudson River. Mais ce sont les Hollandais au début du XVIIe qui s'installent dans la baie, idéale pour un port, et qui y fondent un comptoir qui prospère.
Alors en 1626, ils achètent aux Indiens l'île de Manhattan pour 60 florins.
C'est-à-dire, alors attention, c'est-à-dire 24 dollars. Manhattan est acheté aux Indiens pour 24 dollars. La plus extraordinaire transaction de tous les temps. Alors, on y fait le commerce de farine à ce moment-là, et aussi des peaux de wison, de loutre, de castor, de fourrure donc. Et d'ailleurs, les armes de New York représentent un Indien et un Blanc qui encadrent des ailes de moulin, des tonneaux de farine et des castors surmontés de l'aigle. Et les Hollandais baptisent l'endroit, logiquement, la Nouvelle Amsterdam.
Ah ben voilà, tout simplement. Alors, la Nouvelle Amsterdam se développe sur la pointe sud de Manhattan.
Et entraîne la convoitise des Anglais.
Ça ne m'étonne pas d'eux.
Le dernier gouverneur anglais, qui s'appelle Peter Stuyvesant.
Hollandais.
Hollandais, pardon. Du coup,
oui. Oui, c'est ça.
Désolée. Hollandais fait construire en 1653 un mur, qui est une palissade en bois en fait, pour protéger la ville des attaques des Indiens et des Anglais. Et à l'emplacement de ce mur se trouve une rue très célèbre qui en a gardé le nom, Wall Street.
Oui, élémentaire, n'est-ce pas ? Voilà. Alors les Anglais parviennent tout de même à s'emparer de la Nouvelle-Amsterdam en 1664.
Et la ville change de nom. Elle devient New York, en hommage au frère du roi d'Angleterre, le duc d'York. Son port accueille de plus en plus de bateaux. Les maisons sont en bois, d'où beaucoup d'incendies, comme par exemple en 1835, où le feu ravage le sud de la ville et détruit tous les immeubles de l'époque hollandaise. Et sa situation exceptionnelle en fait la porte du Nouveau Monde.
Et attire des foules d'immigrants, bien sûr. New York se développe très rapidement.
400 personnes seulement vers 1650, 50 000 en 1800, 500 000, c'est-à-dire 10 fois plus, 50 ans plus tard, en 1850.
Ah oui, terrible ça. Hein. Alors les gens viennent du monde entier, bien entendu. Hein.
Un peu de partout. Par exemple, vers 1840, il y a beaucoup d'Irlandais qui fuient la famine dans leur pays. Les Kennedy, par exemple, descendants d'Irlandais. Ouais. Plus tard, d'anciens esclaves noirs, des Italiens, des Juifs russes, des Grecs. Ils s'entassent dans des quartiers très pauvres et la misère et la criminalité explosent. Et on peut dire quand même que New York doit sa fortune à son site portuaire, mais aussi à son exceptionnelle vitalité qui est liée au mélange des races et des cultures.
Alors peu à peu, New York se modernisera.
En 1817, c'est déjà une importante place financière et le Stock Exchange remplace la bourse qui se tenait en plein air sur Wall Street depuis 1792. Dès ce moment, le plan de Manhattan est strictement quadrillé. Les routes se croisent perpendiculairement, donc il y a 150 rues orientées est-ouest et 12 avenues qui vont du nord au sud.
Alors, comme la très chic 5e avenue. L'avenue des millionnaires et les très belles boutiques.
Très chic.
Très chic.
Et puis, il y a aussi la large avenue de Broadway, qui veut dire d'ailleurs la route large. Broadway qui coupe ce quadrillage en diagonale.
Alors, il est donc très facile de s'orienter.
Voilà. Pour un touriste, c'est vraiment
facile.
Il suffit
de savoir compter.
Voilà, exactement. En 856, il est décidé de créer un immense parc de 340 hectares au cœur de Manhattan. Et ce parc, Central Park, se situe entre, voilà, c'est facile, la 59e rue et la 110e rue. Central Park est un vrai oasis en plein centre-ville. On peut y pratiquer toutes sortes de sports. Les loisirs sont infinis. Concerts, zoos, théâtre en plein air.
Alors, on y voit un mémorial élevé à John Lennon, oui. Voilà, qui fut assassiné le 8 décembre 1980 en sortant de chez lui, non loin de là.
Devant Central Park, en fait.
Exactement.
Et puis, mais c'est surtout un merveilleux endroit de promenade, un paradis pour les New-Yorkais, avec aussi des restaurants comme le Leb Boat House, qui est un restaurant vraiment paradisiaque au bord de l'eau.
Comme son nom l'indique, Boat.
Boat House. Un peu plus tard, en 1883, la construction du pont de Brooklyn, ou Brooklyn Bridge, facilite considérablement les déplacements. Car en fait, l'île de Manhattan était isolée par un large estuaire et ne pouvait pas se développer sans pont. Donc, avant Brooklyn Bridge, on traversait les rivières dans des bacs lents et surchargés.
Alors, c'est alors le plus long pont suspendu du monde.
Il fait 1 km 825.
Ouais, c'est quand même très long.
Oui, presque 2 km. Le plus ancien, mais et aussi le plus beau. Aujourd'hui, il y a 6 ponts à New York. Le dernier, c'est le pont Verrazzano, comme notre Florentin,
voilà, c'est ça.
1964. Et il enjambe le détroit qui sépare Long Island et Staten Island en face de New York. Et vraiment, il faut traverser le pont de Brooklyn à pied. On est à 40 mètres de hauteur, dans la direction, bien sûr, de Brooklyn à Manhattan. Et admirer la skyline, la vue inoubliable sur les gratte-ciel de New York.
Je vous conseille d'y aller très tôt le matin,
avant que la
foule n'aille. Ils sont extrêmement nombreux. Alors, c'est en contemplant ce spectacle inouï que nous vous proposons une pause musicale.
Rhapsody in Blue, de George Gershwin.
Alors maintenant, après ces magnifiques rhapsodies, allons voir d'abord au large les grands monuments témoins, la Statue de la Liberté et Ellis Island.
Alors, la Statue de la Liberté guidant le monde, elle est sur une petite île à l'entrée du port de New York.
Et c'est l'œuvre d'un Français, n'oublions pas.
Oui, Frédéric Auguste Bartholdi, il a aussi d'ailleurs fait le Lion de Belfort.
C'est moins loin.
C'est moins loin à voir aussi. Et cette Statue de la Liberté, c'est donc un cadeau de la France aux États-Unis. Elle est inaugurée le 28 octobre 1886. Elle pèse 225 tonnes et s'élève avec son piédestal à 93 mètres de hauteur.
Et elle a été faite à Paris.
Oui. Et d'ailleurs, on voit sur d'anciennes photos, lorsqu'elle est presque terminée à Paris, qu'elle dépasse les toits parisiens. C'est assez étonnant. On voit la tête qui surgit des toits. Puis, elle est démontée, elle est rangée dans 210 caisses. Embarquée sur la frégate Isère et traverse l'Atlantique. Sa tête mesure 4,40 m. Elle tient dans sa main droite une torche de 6 mètres dont la flamme est couverte de feuilles d'or. Et sur sa tête, un diadème de 7 pointes qui symbolise les 7 continents.
Ah voilà, alors je voulais juste dire que si vous voulez voir en tout petit la Statue de la Liberté, allez voir au musée des Arts et Métiers où nous trouvons l'original, la première petite statue qui a été créée en plâtre. Voilà, il s'y trouve là.
Et le prototype, on peut dire.
Oui, exactement. Et cette statue, donc avec ses magnifiques couronnes et sa torche, elle regarde vers l'Est, bien sûr.
Oui, vers l'Est, bon, vers le soleil levant, mais bien sûr, surtout vers l'Europe, c'est-à-dire le vieux continent d'où viennent tant d'immigrants. Dans la main gauche, elle tient une tablette avec la date de l'indépendance des États-Unis.
Et qui est le 4 juillet 1776.
Exactement. Alors, l'armature en fer avait été conçue par Gustave Eiffel, français aussi. Sa robe, la robe de cette statue, ressemble aux statues grecques antiques. Elle est en feuilles de cuivre.
Mmh. Et à ses pieds, les chaînes brisées symbolisent la fin de l'esclavage.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a un poème qui est inscrit sur ce piédestal. Qui est tout un programme, voilà. Je me retrouve. Voilà, je vous dis un petit extrait. C'est vraiment émouvant. « Donnez-moi ces masses de misère, avides d'air libre, pauvres débris de vos rivages surpeuplés. Envoyez-les-moi ces vagabonds jetés dans la tourmente. » Et c'est donc
qu'est-ce
un
qu'il
poème
a écrit, ça
d'Emma Lazarus,
Le
New Colossus, le nouveau colosse.
Ah, d'accord. Alors, elle est comme une sentinelle du nouveau monde. Elle se dresse colossale, majestueuse.
Oui, et c'est la première vision qui s'offre aux multitudes d'immigrants après un voyage souvent très éprouvant en bateau et qui vont former d'ailleurs le melting pot de New York, une ville très cosmopolite où cohabitent des dizaines de nationalités. Franz Kafka voyait en New York, je le cite, cet Eldorado des temps modernes où, racontait-on aux petits-enfants d'Europe, les rues étaient pavées d'or et la terre si vaste et si généreuse que tout le monde pouvait y trouver une place.
Je comprends qu'ils y allaient tous.
Mais voilà.
Alors, rêve. À ce propos, il faut absolument visiter Ellis Island.
C'est très important de visiter l'île d'Ellis Island, car elle nous montre en fait ce qu'a été l'immigration. De 1892 à 1954, 17 millions de personnes sont passées par là. On peut voir la grande salle d'attente, la salle des bagages, les dortoirs, les salles d'examen. Et malgré des examens souvent quand même très approfondis, des examens médicaux de tout ordre, Il n'y avait que 2% de gens qui étaient refoulés, c'est-à-dire qui devaient repartir sur le bateau.
Ils ne voulaient pas d'hommes malades ou de personnes malades, n'est-ce pas?
Et sur un mur qui s'appelle le Wall of Honor, le mur d'honneur,
oui.
Face à la mer, on voit d'ailleurs les noms écrits de 700 000 immigrants. C'est un endroit vraiment très émouvant et qui montre bien à la fois les étapes et les formalités de l'immigration et aussi l'extrême diversité des origines.
Alors d'ailleurs, dans la Statue de la Liberté, si vous la visitez, vous verrez un magnifique musée avec les cadeaux,
oui.
Très beaux cadeaux, offerts justement par ces mêmes immigrants qui remerciaient les États-Unis
de cadeaux, de les avoir
accueillis. Oui. Donc allez-y si vous avez l'occasion. Alors voilà, en 1900, la population s'élève déjà à 3 millions de personnes après ces arrivées.
Exactement. New York, c'est une mosaïque urbaine avec des architectures multiples. Donc on y trouve des maisons, comme les jolies maisons en bois de Grove Street, deux petits immeubles à Greenwich et à West Village avec des ruelles pleines de charme, des immeubles de briques, des immeubles de grès rouge qu'on appelle des brownstones, avec leurs escaliers en fer extérieur qui existent toujours et ces escaliers qui étaient des issues de secours en cas d'incendie. On voit aussi ce qu'on appelle des cast iron buildings, c'est-à-dire des immeubles en fer,
oui.
Aux façades très ornées.
Alors il faut attendre 1902 pour voir s'élever le premier gratte-ciel, donc le Flatiron Building.
Oui, le premier vrai gratte-ciel, c'est-à-dire qu'il va gratter le ciel très très haut. Il fait 95 mètres, il a 22 étages. Alors, Flatiron Building, il est un petit peu appelé ironiquement le fer à repasser à cause de sa forme.
Et alors ?
Et dès lors, on peut dire que vraiment New York est gagné par une véritable frénésie de construction verticale. Une à cause du manque d'espace, bien sûr, et de l'afflux des nouveaux arrivants. Et en 1900, le port et le quartier d'affaires Wall Street sont quand même les plus importants au monde et des immigrants arrivent d'autres endroits, par exemple de Chine à ce moment-là. C'est la ville la plus grande des États-Unis.
C'est peut-être pour ça que les gens croyaient pendant longtemps que c'était la capitale alors qu'elle ne l'était plus.
C'est ça, c'est la porte d'entrée en fait.
C'est ça. Alors elle est divisée, la ville est divisée en 5 quartiers, comme
que je
Manhattan.
Vous cite, voilà, Manhattan, Donc, ça a démarré de là. Puis, Manhattan, Brooklyn, le Bronx, le Queen et Staten Island. Mmh. Et c'est surtout à partir de 1920 que la partie sud de Manhattan se hérisse de gratte-ciel, construit, dit-on, par les Indiens Mohawks, insensibles au vertige.
Alors, le crack de 1929 freine les constructions et met au chômage des milliers de New Yorkais.
C'est vrai, mais ça repart de plus belle avec Roosevelt et la politique du New Deal.
Alors, par exemple, le célèbre Empire State Building.
Oui, qui est construit au début des années 30, donc juste après le crack en fait. Ces 102 étages vous mènent à 381 mètres de haut. Il est immortalisé par King Kong en 1933 et il restera le plus haut gratte-ciel du monde pendant 40 ans. Il est toujours prodigieux d'ailleurs. Certains gratte-ciel sont des chefs-d'œuvre de style art déco comme le Chrysler Building, que surmonte une flèche de 60 mètres, et la flèche rappelle les chapeaux de perles et de paillettes dont on se coiffait à l'époque. C'est assez original sur des gratte-ciels.
Dommage qu'il faille aller si haut pour
on peut la voir d'en bas. Hein.
Alors, au milieu des gratte-ciels, il y a une toute petite église.
Enfin,
elle n'est pas si petite que ça.
Qui est quand même la cathédrale Saint-Patrick, donc la cathédrale des Irlandais, 1815, et la plus grande cathédrale catholique du pays. Mais c'est vrai qu'elle a l'air tout à fait écrasée par les tours. Elle a presque l'air d'une chapelle. Ces deux flèches ont quand même 100 mètres de haut. Et beaucoup de ces 70 vitraux ont été réalisés par des ateliers de Chartres.
Alors visitez-la en pensant à nos ateliers merveilleux.
Exactement.
Qui nous donnent tant de lumière, n'est-ce pas? Et il y a bien sûr d'autres églises à visiter à New York.
Alors l'église Saint-Paul sur Broadway, c'est la plus vieille église de Manhattan. Elle date d'avant la guerre d'indépendance. Et son cimetière est un étonnant oasis où courent des écureuils gris au pied des arbres et dont le calme contraste fortement avec les gratte-ciel du Financial District.
Et avec les néons clignotants de Times Square.
Les écrans géants, les affiches lumineuses qui annoncent les dizaines de spectacles de théâtre, Broadway et off-Broadway, les shows, les comédies musicales.
Alors, quand fut créée la première comédie musicale ?
En 1866. Et elle s'appelait The Black Crow, le corbeau noir. Je n'en sais pas plus, mais elle a quand même été jouée 475 fois et elle a lancé la mode.
Alors, à regarder sur YouTube.
Peut-être, oui, c'est vrai, bonne idée. Et nous avons tous en tête les plus célèbres comme West Side Story, My Fair Lady,
tout ça, voilà.
Singing in the Rain.
Oui, déjà plus proche de nous, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vous propose de profiter d'une petite pause musicale pour en écouter un extrait.
Tiré de West Side Story, qui met en scène la communauté portoricaine à New York. I want to go to America.
En 1961.
Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put that in.
A small fee in America.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
New housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're all white in America.
Alors nous reprenons, nous vous racontons New York aujourd'hui. C'est Christine qui connaît cette ville merveilleusement. Alors, pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, New York devient la capitale du monde.
De très nombreux intellectuels et artistes y trouvent refuge, chassés d'Europe par la guerre, comme par exemple Albert Einstein, Peter Mondrian, Arthur Rubinstein et tant d'autres. En 1945, New York devient le siège de l'ONU, qu'on peut d'ailleurs visiter. En 1970, un détail, mais qui fait aussi l'image de New York, c'est l'apparition des taxis jaunes, si facile à repérer.
C'est comme à Budapest.
Oui, alors qu'à Paris, c'est tellement compliqué.
On les voit très loin, effectivement, une jaune bien tapant. Alors, c'est alors une ville dangereuse, violente, à
oui,
cette période-là.
Absolument, une ville où il faut faire très attention, au point d'avoir un policier dans chaque wagon de métro, avec une matraque. Ah. Mais la situation va changer complètement dans les années 90. Sous la poigne de fer du maire Rudy Giuliani, qui pratique la politique de tolérance zéro et qui va faire de New York, et aujourd'hui encore, une des villes les plus sûres des États-Unis.
Bon, Madame Hidalgo pourra peut-être s'adresser.
C'est une
enfin bref, voilà. Il y a une date noire dans l'histoire de New York. Le 11 septembre 2001, la ville est touchée par des attentats.
Deux avions percutent les Twin Towers au sud de Manhattan. C'est un traumatisme énorme qui a profondément marqué New York. Car en fait, plus de 50 000 personnes travaillaient dans ces tours. Et 200 000 visiteurs montaient chaque année à l'observatoire qui s'appelait Windows of the World.
La fenêtre du monde.
Fenêtre sur le monde, ah, oui, c'est ça. Monde. Et d'ailleurs, il y a un livre poignant qui porte ce titre de Frédéric Beigbeder. Et ces attentats de New York font près de 3000 victimes.
Et ça a marqué le monde entier. Tout a changé depuis ce
11
septembre.
Ouais.
Alors, à l'emplacement des deux gratte-ciels qui ont été détruits, il y a le Ground Zero.
Ground Zero. Et un mémorial aujourd'hui et deux grands bassins miroitants qu'on appelle Reflecting Absence, miroir de l'absence, en hommage aux victimes. Ça serre le cœur. Mais ça exprime aussi le courage et la vibrante énergie de New York, capable de se relever d'un si effroyable drame.
Alors New York est aussi la capitale culturelle des États-Unis.
Alors les musées se comptent par dizaines, les galeries d'art par centaines. Bien sûr, il ne faut pas manquer les grands musées comme le Met, Metropolitan Museum, qui date de 1876, avec ses 18 départements et ses 2 millions d'œuvres d'art.
Alors il faudrait des jours pour tout voir, si c'est possible.
Alors une mention spéciale quand même pour ce musée, pour la reconstitution des salons parisiens du XVIIIe siècle, qui est remarquable, et aussi le temple de Dendour, c'est un temple égyptien, avec son bassin et ses murs couverts de hiéroglyphes. Et ce temple est un cadeau du gouvernement égyptien aux États-Unis, en remerciement de leur aide pour le sauvetage du temple d'Abou Simbel.
Alors, il y a le MoMA, bien sûr, qui date de 1929,
oui.
c'est le musée moderne, de l'art moderne
c'est ça,
des États-Unis, et qui présente cet art du XXe siècle.
Du XXe siècle. C'est un des plus beaux musées de New York, avec près de 100 000 œuvres, Miro, Picasso, Matisse, Van Gogh, Giacometti.
Et tant d'autres, certainement.
Oui.
Il y a aussi le musée Guggenheim, ça nous frappe aussi par sa splendide architecture.
Oui, un petit peu en forme d'escargot qui s'enroule. Mais le mieux, c'est de regarder une photo, ça sera plus expressif. Là aussi, c'est un temple de l'art, le musée Guggenheim, des impressionnistes aux années 60. Et à partir des années 60, c'est le musée Whitney qui présente d'ailleurs aussi une importante collection de l'œuvre d'Edward Hopper.
Et il y a deux coups de cœur maintenant?
Oui. D'abord, la Frick Collection. Dans une belle demeure à taille humaine, somptueusement meublée et jamais bondée, une impressionnante collection privée des Rembrandt, des Vermeer, des Renoir, et dans une atmosphère intimiste et raffinée.
C'est pas une histoire d'argent, du fric, non, c'est pas ça.
Pas du tout, non, d'ailleurs c'est écrit fric, F-R-I-C.
D'accord. Alors, et les cloisters?
Les cloisters, c'est-à-dire les cloîtres. Alors c'est un étonnant musée, vraiment. Au bord de l'Hudson, le musée des cloîtres accueille l'architecture et l'art du Moyen-Âge. Et on reste bouche bée devant des cloîtres qui ont été transportés pierre par pierre du sud de la France. comme Saint-Guilhem du Désert dans l'Hérault ou Saint-Michel de Cuxa au pied des Pyrénées. Et c'est un musée plein de charme et en plus magnifiquement situé.
Oui, je pense qu'il y a plus de monde qui le voit que si ces cloîtres étaient restés au même endroit. Mais enfin, peut-être les gens...
C'est une idée.
Oui, voilà, je pense. On se console comme on peut, n'est-ce pas? Alors, dans un autre genre, et donnant sur le Central Park, il y a le musée de l'histoire naturelle qui date de 1877.
Donc et qui...
Il y en a beaucoup qui ont été construits dans la même
période. Oui, et qui peut ravir les enfants avec son impressionnante collection de dinosaures, le clou de la visite, et puis la baleine bleue longue de 29 mètres.
Alors, il faudrait un mois pour visiter tout New York.
Sûrement plus, car il faut aussi faire un tour.
T'es optimiste.
Oui, il faut aussi faire un tour à Grand Central, la gare de New York, 1913, un bijou d'architecture avec son immense hall au plafond constellé d'étoiles. Il faut aller au Lincoln Center, le plus grand centre de spectacle du monde, et son Metropolitan Opera, qui d'ailleurs transmet en direct les opéras vers les cinémas de France.
Donc il suffit d'aller aux Enfants du Paradis.
Et on voit le spectacle du Lincoln Center.
Avec le décalement d'heure.
C'est en direct.
Ben juste, c'est pour ça, pour nous, c'est pas la même heure. Donc ça tombe. Très très bien. Je voulais juste dire à propos de la gare quelque chose, la gare centrale, c'est que... on arrive à se transmettre le son d'un côté à l'autre. On chuchote dans un coin de la gare.
Il y a une acoustique.
Et on l'entend, c'est tout à fait extrait. Voilà. Oui. J'ai vu ça dans un film. Hein, donc, voilà, mais connaissance. Alors, visitez aussi Harlem.
On peut maintenant visiter Harlem. C'était impossible il y a 50 ans. Donc, en particulier, c'est bien sûr le quartier de la communauté noire. Il y a l'église Saint John the Divine, qui est la plus grande église des États-Unis. L'université aussi de Columbia, fondée en 1754. Et puis, il faut aller rêver devant la patinoire et l'arbre de Noël géant de Rockefeller Center. Ou bien aller sur les quais de South Seaport et se souvenir de la navigation à voile et des bateaux historiques.
Et puis, explorer ces quartiers tellement différents.
La bohème de West Village, Chinatown, Washington Square, faire son shopping à Soho ou chez Macy's, le plus grand magasin des États-Unis. Ou alors, si on est très fortuné, on peut même aller chez Tiffany sur la 5e avenue.
Oui, pourquoi pas.
Les diamants de Tiffany.
Ça fait pas de mal.
Sans négliger pour autant le parc de Brooklyn et les plages de Coney Island et bien d'autres sites.
Alors, et pour couronner le voyage, embarquez dans un ferry au départ de Staten Island.
Et voguer vers Manhattan avec une vue époustouflante sur la Statue de la Liberté et les gratte-ciels de Manhattan. Et comme le décrit l'écrivain John Dos Passos, entassés dans l'île étroite, les édifices aux 1000 fenêtres se dressent étincelants, sommets de nuages blancs au-dessus des orages. Et qui, au coucher du soleil, s'éclairent comme des myriades d'étoiles dans la nuit sombre.
Merci Christine, c'est sur ces paroles poétiques que nous vous quittons et en écoutant bien sûr Frank Sinatra qui chante New York. C'est normal. Voilà, nous vous dispensons de nos chansons. On laisse faire le
Frank Sinatra,
maestro,
oui,
n'est-ce
sera
pas
mieux.
Voilà, et bientôt, à bientôt
un
pour
crooner.
Une prochaine émission Capital.
Au revoir.
Au revoir.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues.